Bonjour Bertrand Giraud.
Bonjour.
Vous êtes candidat aux législatives sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime. Vous représentez le parti Les Républicains. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?
Oui, tout à fait. Donc Bertrand Giraud. Donc je suis né à Saint-Jean-d'Angély il y a 44 ans. Je suis exploitant agricole à Aunay-de-Saintonge. Je suis donc candidat pour ces élections législatives du 12 et 19 juin prochain en représentant la droite et le centre, l'union de la droite et du centre qui sont LR, UDI, Nouveau Centre et Mouvement de la Ruralité, car je suis président départemental du Mouvement de la Ruralité pour défendre nos traditions, nos villages et nos territoires ruraux qui malheureusement souffrent depuis bien trop longtemps. On est des territoires oubliés, donc il est temps de les défendre vraiment avec cœur.
Quel est votre parcours politique ?
Tout d'abord, j'ai adhéré au RPR à 16 ans. Ensuite, j'ai continué à l'UMP, ensuite c'est devenu LR, donc j'ai suivi LR. Tout doucement, j'ai monté dans la hiérarchie du parti, je suis devenu membre du comité de circonscription, élu au comité de circonscription, je suis devenu ensuite délégué de la 3e circonscription, et ensuite conseiller national auprès des instances à Paris, où je vais régulièrement. J'ai aussi, en 2019, pris la présidence du Mouvement de la Ruralité en Charente-Maritime, qui est un parti parallèle à LR, si on veut parler, mais qui est plus un parti dans la défense des traditions, un mouvement de la défense des traditions et de notre monde rural en général. Donc, dans la 3e circonscription, on colle vraiment au sujet.
Pour quelles raisons vous présentez-vous à cette élection ? Quel est le sens de votre engagement ?
Bien, tout d'abord, ça a été réfléchi quand même assez longuement, parce qu'on ne part pas une élection législative du jour au lendemain. Il faut aussi en parler en famille. On en a parlé longuement avec ma femme, qui je lui ai dit, si demain je pars aux élections législatives, qu'est-ce que tu en penses ? Elle m'a dit, tu peux y aller, je suis de tout cœur avec toi, je te soutiendrai. Elle est élue elle-même d'une petite commune qui s'appelle Coivert, territoire rural. Et quand on est maire d'une commune comme Coivert, croyez-moi, et on en a beaucoup dans la circonscription qui sont des communes de cette taille-là, elle sait ce que c'est que le travail d'élu, ces territoires oubliés malheureusement, et elle a vraiment envie, et elle me connaît, elle me dit « je sais que toi tu sauras nous défendre ».
Donc la politique c'est une histoire de famille ?
En étant maire de Coivert, c'est pas vraiment de la politique. On va dire sur une communauté que Coivert et conseillers municipaux, il y a, je pense, 5 ou 6 tendances. C'est totalement différent d'une élection plus commune législative, où là, c'est beaucoup plus politique, bien sûr. Mais ma femme aime beaucoup la politique, et il vaut mieux quand on est un mari qui part aux élections législatives, il vaut mieux que ça marche de concert à la maison.
Comment analysez-vous les résultats de la dernière présidentielle, et notamment le score très faible de votre candidate Valérie Pécresse, qui a fait moins de 5%, et qu'attendez-vous du scrutin des 12 et 19 juin ?
Tout d'abord, Valérie Pécresse a fait une campagne qui n'a pas imprimé, ça s'est tout de suite vu, aussitôt le discours du Zénith, le meeting du Zénith, on a bien vu que c'est un meeting qui était raté, ça a été le début des gros problèmes, elle a continué à sombrer. Ensuite, la crise internationale a énormément appuyé aussi sur ces élections, ce qui fait que les Français se sont tout de suite rapprochés, beaucoup ont voté aux extrêmes d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, 50% des gens ont voté aux extrêmes, certains ont préféré voter pour le président de la République sortant en disant il gère la crise ukrainienne actuellement, donc on va lui refaire confiance. Donc le score de la présidentielle, il est là, il se joue comme ça, avec 26% d'abstention, ne l'oublions pas. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une élection législative, c'est totalement différent. Une élection législative, on vote, c'est 577 élections différentes en France. Les gens, moi, je rencontre tous les jours des dizaines de personnes qui me disent, beaucoup me disent, on votera pour toi parce qu'on sait que tu es du terrain, on sait que tu es né sur cette circonscription, que tu y travailles, que tu es ancré, que tu la connais parfaitement. Ça, c'est tout à fait vrai. J'ai pas besoin de GPS quand je me promène sur ma circonscription. Et donc, c'est là que l'on voit que les gens réagissent totalement différemment. On sent bien que c'est pas une élection nationale. C'est plus une élection locale. Les gens ont envie d'avoir des personnes qui les représentent à Paris pour parler du territoire, pour porter des projets aussi bien auprès du département que de la région, que à l'Assemblée nationale pour défendre des valeurs sur nos territoires, et ensuite aussi porter des projets à l'Europe si on a besoin d'aller chercher des aides à l'Europe. Moi, personnellement, je suis soutenu par Michel Barnier, qui a été 10 ans commissaire européen, et je sais très bien que si demain, pour la circonscription, il faut aller défendre des projets à Bruxelles, eh bien, Michel Barnier m'a dit, ne t'inquiète pas, je te conseillerai, et je serai te conseiller et t'ouvrir les bonnes portes. Je pense que c'est très important pour un territoire.
L'enjeu, il est là sur le territoire. La campagne se fait au niveau local.
Moi, j'ai fait une campagne très locale et je sens que c'est ce que les gens attendent. Ils disent toujours, on ne voit pas nos élus, on ne voit pas nos parlementaires, enfin notre député ou nos députés. Souvent, de fois, c'est ce que l'on entend sur les territoires. Il y a des députés qui sont élus et réélus sans problème et d'autres, ce n'est pas le cas.
C'est ce que vous reprochez peut-être au député sortant Jean-Philippe Ardouin ?
Alors moi, le député sortant, j'entends beaucoup cette remarque. Moi, je ne suis pas dans le rôle de la critique. Ce n'est pas à moi de juger son bilan. Si les électeurs de la 3e circonscription estiment qu'il a fait le travail, qu'il est allé les voir régulièrement, qu'il a participé à énormément de manifestations pour représenter son mandat, qu'il est allé porter des projets auprès des chefs d'entreprise, défendre des dossiers à Paris, ramener de l'argent des ministères pour défendre des projets sur les territoires, ils lui feront de nouveau confiance. Si jamais ce n'est pas le cas, je pense qu'il sera sanctionné dès le premier tour. Et puis voilà, mais maintenant, ce n'est pas à moi de juger. Vu ma position de candidat, je ne veux surtout pas rentrer dans ce jeu-là.
Bon, qu'est-ce que vous pensez des candidatures à gauche qui se multiplient hein, malgré l'appel à l'union au niveau national ?
Alors ça, c'est un problème qui les regarde. C'est pas moi qui gère les investitures des autres familles politiques. A priori, oui, ils sont plusieurs à se présenter sur le même à gauche. Donc
vous avez forcément un regard.
Oui, j'ai un regard forcément. Oui, mais on sait bien que ça, plus ils sont de candidats et plus ça divise les voix.
C'est plutôt une aubaine pour vous ?
Non, c'est pas tout à fait le même électorat. Les gens qui votent la France insoumise ne voteront pas Giraud, hein. C'est pas du tout le même électorat. Donc après, c'est entre les candidats tels que Fabrice Barusso, Gérald Dahan, ainsi que les autres candidats j'ai entendu que trois candidats écologistes, différents, c'est ces gens-là, ben c'est à eux de régler leurs problèmes internes. S'ils n'ont pas réussi à faire d'accord, c'est pas moi qui donne leurs investitures.
Bien, Bertrand Giraud, vous représentez donc le Parti Les Républicains sur cette 3e circonscription de la Charente-Maritime. Quelles sont vos priorités pour ce territoire ?
Tout d'abord, ce territoire, les Vagues de Saint-Onge ainsi que la CDA autour de Sainte, nous sommes la seule circonscription non littorale de Charente-Maritime. Nous avons aujourd'hui un magnifique patrimoine architectural. Nous avons aussi la Charente, la Boutonne. Je pense que nous pourrions arriver à mettre en musique toutes ces choses-là et arriver à faire des pistes cyclables qui viennent depuis le littoral pour drainer des touristes à l'intérieur des terres plutôt que de les garder constamment sur le littoral. Le tourisme vert se développe énormément. C'est des emplois que l'on peut créer dans nos territoires, des emplois qui sont non délocalisables, bien sûr.
Il y a des efforts qui sont faits justement pour développer le tourisme vert.
Voilà.
On peut faire mieux.
J'en parle sur mon projet qui arrive cette semaine dans les boîtes aux lettres. De soutenir le département pour accroître le maillage en piste verte, en piste de vélo, en voie verte, afin que les communes soient accessibles en vélo pour rejoindre les grandes routes cyclables. Aujourd'hui, ça manque. Le département a véritablement cette majorité départementale qui travaille énormément. Moi, j'ai quand même la chance d'appartenir aux mêmes sensibilités politiques que notre majorité départementale. Et je pense que demain, ça sera un plus pour travailler ensemble et pour essayer de porter ce projet, de mieux mailler notre territoire en voie verte.
D'ailleurs, vous avez le soutien des élus Les Républicains ou de centre droit ou de la majorité départementale ?
D'un certain nombre, oui. Donc, d'un certain nombre, c'est la majorité départementale. Certains sont en carte LR, d'autres pas, mais sont du centre droit. Et
Corinne Imbert, peut-être, la sénatrice ?
J'étais avec Corinne Imbert dimanche matin à la foire au vin, où on a fait le tour de la foire du vin de Beauvais ensemble à plusieurs reprises pour qu'elle me présente énormément de monde. Corinne, on est en contact régulier. Elle me conseille beaucoup. C'est une femme d'expérience, c'est une femme qui porte des projets sur nos territoires. À Mata, notre canton de Mata a été réélu sans souci, parce que c'est une femme qui travaille, qui est vue, qui est reconnue et qui est écoutée. Et c'est des élus comme ça qui comptent.
Revenons aux priorités. La ruralité, c'est aussi évidemment un de vos chevaux de bataille.
C'est un cheval de... Bien sûr, je représente le mouvement de la ruralité. Vous savez, la Charente-Maritime, notre 3e circonscription, on est le berceau du Pinot. Je le disais l'autre jour chez des confrères à vous. On est le berceau du Pinot. On a du cognac. C'est quand même la filière d'excellence qui est connue dans le monde entier. On a la chance que sur la 3e circonscription, on a énormément de distillateurs. C'est une grosse masse d'emplois sur le secteur Mata, Chanier, Saint-Porcher, Ténax, où on a une partie du canton de Saint-Porcher sur la 3e circonscription, à revenir après plus du côté de Sonac, Beauvais-sous-Mata, tous ces secteurs, on a énormément de vignes. Ce sont des filières à porter qui portent des choses pour notre territoire et qui créent des richesses sur place. Donc aujourd'hui, cette ruralité, bien sûr, on a ces choses-là, mais on a un gros problème, ce sont nos écoles. Aujourd'hui, j'entends parler par exemple d'une fermeture de classe à Régnaud, à Saint-Jean, c'est une honte. Tout simplement, moi je le dis ouvertement, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Fermer une classe parce qu'il manque deux ou trois élèves, où est-on rendu? Nos territoires ruraux doivent arrêter de servir de variable d'ajustement. Quand on voit que dans certaines grandes villes, on n'a plus que 12 élèves par classe pour que les élèves réussissent parce que ce sont des quartiers sensibles, pourquoi nous, sur nos territoires ici, tels qu'à Saint-Jean, on parle de fermer une classe qui manque deux élèves? Donc les parents d'élèves sont vent debout, ils ont tout à fait raison, et si demain je suis élu, je porterai avec eux la défense de la fermeture de cette classe, parce qu'il est hors de question qu'on puisse fermer encore, qu'on entende parler de fermeture de classe parce qu'il manque deux ou trois élèves dans une école. C'est une honte.
Dans le domaine environnemental, on peut évoquer forcément l'éolien, notamment en Val de Saintonge, hein, votre territoire. Vous êtes pour ou contre ?
Alors l'éolien est un sujet très, très compliqué sur notre circonscription, surtout sur le nord. Sur le sud, une fois qu'on arrive au sud de Saint-Jean jusqu'à Sainte, on n'en voit pas. C'est vrai que sur le nord, tout le secteur autour de Marseille, on commence à en voir beaucoup. Donc certains vont vous dire, j'ai rencontré des élus hier qui me disent, ben moi je voudrais des éoliennes sur ma commune parce que ça va nous rapporter. J'en rencontre d'autres qui me disent on n'en veut absolument pas. Alors je pense que les éoliennes, c'est vrai qu'on arrive à saturation dans ce secteur. Quand on entend, quand la population locale et que les élus de la commune sont contre, eh bien on n'a pas à leur imposer. Et puis après, il y a certains secteurs où on vous dit, ben, alors moi je pense qu'il faut laisser le choix à la population locale, à ceux qui vivent sur place, de décider de leur environnement. C'est à eux de décider. Et c'est pas le député qui peut agir dans ce sens-là. C'est vrai que certains endroits, quand on voit qu'on va pas mettre 10 pieds d'éolienne par commune, on a saturation, c'est vrai, par endroit.
Concernant l'éolien en mer, vous avez aussi un avis sur la question ?
Alors moi, je suis pas concerné sur ma circonscription. Je serai un élu de Charente-Maritime. Des éoliennes en mer, si on met des éoliennes en mer, pourquoi pas, mais pas à 15 km des côtes, qu'elles soient visibles et puis que ça nuise au tourisme. Si on met des éoliennes en mer, je pense qu'il faut d'abord le faire en partenariat là aussi avec ceux qui utilisent la mer au quotidien, qui sont les marins pêcheurs. Ils disent que si on les met à 15 ou 16 km des côtes de la Cotinière, a priori, ça cause des problèmes pour eux. Et bien, il faut entendre les gens du territoire là aussi. Ces gens-là, ils utilisent la mer, c'est leur moyen de vivre, mais c'est aussi la ressource en poissons. Donc, si ça cause des problèmes de travail pour eux, il faut réfléchir les projets autrement. Donc, il faut absolument toujours se référer quand même aux gens qui vivent localement. Il faut arrêter que la parole soit toujours à Paris.
Quels seront vos combats au niveau national ?
Au niveau national, je pense qu'il faut, vraiment qu'on appuie aujourd'hui sur nos aînés. Quand on voit on a 1,5 million aujourd'hui de personnes qui ont plus de 65 ans, dans 20 ans, ce sera 4,5 millions. Si on ne privilégie pas, si on n'accentue pas le fait que les personnes puissent rester chez eux à domicile, le maintien à domicile de ces personnes-là, on va pas mettre tout le monde dans des EHPAD. On sait bien qu'il y a des problèmes dans les EHPAD. Moi, je suis vraiment pour développer les structures intermédiaires. On entend parler de résidences partagées aujourd'hui. En plus, ça permet dans nos petites campagnes, je vois, on a des anciennes écoles par endroits où ça permettrait de faire des résidences partagées avec 8, 10, 15 personnes. Ça peut être une solution. Ensuite, améliorer les maisons. Souvent de fois, une douche en bas dans une maison et une porte élargie, la personne peut rester vivre chez elle. Donc, c'est quand même un sujet national qu'il faut porter, qui a une répercussion sur nos territoires. Le maintien de nos aînés à domicile, accompagner les familles aussi. Souvent de fois, on entend parler de familles qui ont des malades à domicile et qui sont malheureusement pas soutenues. Souvent de fois, la personne qui soutient le malade et part avant celui qui est malade. Donc il faut qu'on arrive à faire avancer ces choses-là. C'est pas possible de continuer comme ça.
Concernant le pouvoir d'achat, qui reste une préoccupation principale des Français, vos solutions pour aider
Moi, mes solutions, de toute façon, je l'ai dit, si le 19 juin à 20h, je suis élu député, je voterai dès qu'il nous reviendra la question de voter la retour de la taxe de 18 centimes de carbone le 1er juillet, je voterai contre. C'est une mesure de pouvoir d'achat. On sent bien que ce qui a fait démarrer les gilets jaunes, c'est la fameuse taxe carbone d'Emmanuel Macron. Ces députés ont rien trouvé à redire. Ils l'ont voté d'un seul et même homme. Je trouve que là-dessus, c'est un gros problème. 31 centimes. Donc là, depuis le 1er avril, on nous a fait une ristourne de 18 centimes. Mais ces 18 centimes, ne pas oublier qu'au 1er juillet, ils vont probablement les remettre.
Les habitants de votre territoire sont forcément concernés par la hausse des prix du carburant ?
Très impactés. Quand on habite au Nez de Saint-Ange, qu'on va travailler à Saint-Jean, c'est 45 km aller-retour. Quand vous avez 31 centimes de taxe carbone sur le carburant, ça fait vraiment mal au porte-monnaie. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, on va avoir du gasoil au mois de juillet, quand il y a 18 centimes litre retour, autour de 2 euros litre pour faire 45 km par jour. Si vous avez deux voitures dans la maison, parce que souvent de fois, vous avez des gens qui travaillent à Saint-Jean, d'autres à Niort, quand on est... Donc, c'est un gros problème de pouvoir d'achat. Ensuite, moi, je suis aussi pour permettre la conversion pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, ce sont des accords plutôt entre les entreprises et les salariés. Convertir les RTT en salaire, parce que c'est bien beau d'avoir du temps libre, mais avoir du temps libre sans argent, on fait pas grand-chose. Donc, c'est vrai que ceux qui le souhaitent, des moments, disent, bien, moi, si je pouvais convertir mes RTT en salaire, ça me ferait du bien et ça me permettrait de faire des choses en plus, des travaux à la maison, de changer la voiture qui est usée. Et je pense que ça, c'est une mesure de bon sens. Après, chacun est libre de décider ce qu'il veut faire, s'il veut des RTT ou du temps libre. Mais je vois plein de jeunes qui me disent, eh bien, moi, je préférerais avoir plus d'argent tous les mois. Ça me dérange pas de travailler un peu plus, mais avoir de l'argent. Donc, je pense que c'est une chose à laquelle il faut réfléchir vraiment.
Bertrand Giraud, la campagne se poursuit pour vous. Sous quelle forme et pouvez-vous nous préciser l'agenda et les événements à venir ?
Alors moi, personnellement, je ne fais pas de réunion publique. J'ai décidé de ne pas faire de réunion publique pendant cette campagne. Je rencontre énormément de monde toute la journée. Je fais 7-8 rendez-vous par jour et je finis toujours ma journée par une réunion d'appartement où je vois 10, 12, 15 personnes. Hier soir, j'ai fait différemment. J'ai fait deux réunions.
Ça se passe comment, les réunions d'appartement ?
Réunion d'appartement.
Chez les gens, c'est ça ?
C'est des gens... On a un gros réseau de militants, que ce soit le mouvement de la ruralité ou bien la droite et le centre-droit. Donc souvent de fois, ce sont des adhérents qui invitent des amis à eux, des voisins, de la famille. Donc on boit un verre et on discute et ensuite je déroule mon programme qui est là, vous voyez sous les yeux, que tout le monde va recevoir cette semaine dans les boîtes aux lettres. Et on passe thème par thème et on débat et je présente le projet que je pense et les mesures que je souhaite soutenir à l'Assemblée nationale si je suis élu le 19 juin.
C'est plus efficace selon vous qu'une réunion publique, hein ?
Pour moi, je pense que c'est plus efficace. Maintenant, c'est une manière de faire campagne. Chacun choisit sa méthode. Moi, je pense que celle-ci me convient bien.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs ?
Eh bien que dans les prochaines semaines, dans les 15 prochains jours, il va falloir qu'ils se décident pour choisir leur nouveau député dans la 3e circonscription. S'ils estiment que dans les boîtes aux lettres, le document de campagne qui arrive, où je reprends tous les thèmes, si ces différents thèmes leur convient, s'ils pensent que je suis en mesure de porter leurs idées et leurs préoccupations au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'une élection législatif, c'est aussi bien, c'est un élu local, mais qui porte des projets au niveau national et qui vote des lois au niveau national. Donc, j'ai développé tout un projet sur 6 pages pour les habitants de ma circonscription et j'espère vraiment qu'ils vont me faire confiance parce que j'aime ce territoire, j'y suis né, je le vois décliner d'année en année, on nous a fermé beaucoup de services publics et aujourd'hui, il est temps de siffler la fin de la récréation et de dire maintenant, on a un élu du territoire qui est né là, qui la connaît cette circonscription et qui va porter nos idées, qui va nous défendre dans les ministères, à la préfecture et dans tous les organismes nécessaires pour que les choses bougent enfin.
Bertrand Giraud, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.